Amis auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau Libre Journal, le Libre Journal d'Uxérapion. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, émission préenregistrée, mais vos messages seront bien évidemment toujours les bienvenus. Aujourd'hui, les grandes échéances approchent, notamment les grandes échéances présidentielles, et plus largement, on pourrait dire que de grandes échéances attendent la France et les Français, car il me semble que, confusément, tous les Français, quelle que soit leur catégorie, leur âge ou leur situation personnelle, professionnelle ou sociale, sentent bien que eh bien, les choses ne peuvent plus continuer comme elles sont. Alors évidemment, il s'agit d'un sentiment diffus et face à un sentiment, il faut essayer de mettre des éléments rationnels, des éléments objectifs. Et c'est pour ça que tous ceux qui participent au débat d'idées sont les bienvenus et je leur donne bien volontiers la parole dans cette émission que je dirige depuis maintenant plus de 30 ans. Et justement, autour de ce sujet, dont le thème est « La France peut-elle être réformée ?» puisque c'est bien de notre pays dont il s'agit, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Fontanet. Xavier Fontanet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci beaucoup de m'inviter.
Ben, c'est plutôt nous qui voulons vous remercier et vous dire tout le plaisir que nous avons à vous recevoir et aussi l'honneur que cela représente parce que nous parlions de la France et je crois que l'on peut dire que vous avez beaucoup servi la France et les Français à votre manière puisque eh bien, vous êtes l'ancien président directeur général d'Essilor, Essilor qui est un de nos fleurons industriels français, qui est une des entreprises du CAC 40, et durant votre mandat, eh bien, sa valeur boursière, qui dit quand même un certain nombre de choses, même si cela ne dit pas tout, eh bien, a été multipliée par 100. Et donc, ce sont des emplois, c'est de la richesse, et c'est bien évidemment du travail pour l'ensemble des Français, et parfois même des étrangers pour lesquels qui travaillent pour Essilor. Donc, je crois que vous êtes extrêmement bien informé sur la marche du monde et sur la marche des affaires. Et depuis que vous êtes maintenant retiré justement des affaires, eh bien, vous mettez votre énergie et votre talent au service, on va dire, du bien commun, pour dire les choses rapidement, et notamment pour réfléchir à ce qui serait possible et ce qui devrait être fait pour que la France se redresse, car comme je l'ai dit, je crois que tout le monde sent confusément que cela ne va pas continuer comme cela indéfiniment et que face aux défis qui nous assaillent, il y a besoin de réponses extrêmement précises, extrêmement fortes. Alors justement, vous avez en quelque sorte contribué au débat par votre nouvel ouvrage qui s'appelle « Le grand-père et le président » de Xavier Fontanet, que j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui dans une édition conjointe de Valeurs Ajoutées Éditions et Contribuables Associés, l'association bien connue qui essaye de faire en sorte que nos impôts servent véritablement à quelque chose. Alors Xavier Fontanet, si vous-même, vous deviez définir ce que vous avez voulu faire en écrivant cet ouvrage, que diriez-vous ?
D'abord, cet ouvrage, c'est assez étonnant comment il a été conçu. C'est donc Contribuable Associé, et donc je connais Jean-Baptiste Léon, qui est le rédacteur en chef, m'avait dit, écoutez Xavier, est-ce que vous pourriez faire des éditos ? Alors, ben, je lui ai dit, pourquoi pas, et il dit, écoutez, il faudrait qu'on trouve un truc original. Et donc, de la conversation est née l'idée d'un dialogue de génération entre un grand-père et son petit-fils. Et pour mettre un peu de piment, on a dit que le grand-père est en fait un provincial, industriel. Hein, il a monté une entreprise de machines-outils, leader mondial. Donc, il a travaillé dans tous les pays et il a eu des enfants très doués, des petits-enfants encore plus doués. Il y a un de ses petits-fils qui est à Paris, qui a fait l'ENA, cabinet ministériel et qui est président de la République. Alors, c'est une façon de faire un dialogue entre générations, entre les anciens et les nouveaux. Et je crois qu'on a un énorme besoin de partage entre la puissance des jeunes générations et puis l'expérience des anciens. Il y a une discussion Paris-Province, parce que ce n'est pas du tout pareil. Et puis, il y a toute la discussion entre quelqu'un de la sphère privée et quelqu'un de la sphère publique. Hein. Voilà. Donc, c'est un dialogue fictif hein, et qui permet, au fond, d'aborder les vrais sujets. Alors, ce qui se passe, c'est que ben, le grand-père est très fier de son petit-fils, hein, même si le petit-fils n'a pas repris l'affaire familiale. Et le petit-fils, en fait, est assez est fier et trouve de la valeur à discuter avec le grand-père. Voilà un petit peu le chapeau. Alors ça, c'était peu, voilà comment le livre a été conçu, hein. Et alors, ce qui s'est passé, qui était incroyable, c'est que j'ai dû faire au début 3-4 éditos qui ont provoqué un courrier inimaginable. J'avais des lettres de 20 pages sur un chapitre. Et alors, les lecteurs disaient, ah ben, écoutez, abordez un autre sujet. Et donc finalement, de 3-4 éditos, on est arrivé à 20. Hein. Et puis alors après, le patron de VA Édition, par Twitter, m'a contacté. Et puis, donc, il m'a expliqué ce qu'était VA Édition. Hein. Et puis, il m'a dit, écoutez, M. Fontanet, rajoutez-moi 3 ou 4 chapitres, et puis on fait un livre. Donc, dans un grand éclat de rire, j'ai appelé immédiatement Jean-Baptiste Léon. Je lui ai parlé de la situation. Il m'a dit, écoutez, VA Édition, c'est une maison d'édition toute petite, mais très, très intéressante. Allons-y. Et voilà. Voilà l'origine du livre. Hein. Donc, c'est des intuitions, des rencontres, et puis c'est les lecteurs qui ont, en fait, quasiment fait le plan du livre, voilà. Et alors c'est sorti, je veux dire, les chapitres, je les écrivais le soir, je les dictais sur l'ordinateur, c'est sorti tout seul. Hein. Donc c'est très spontané. Et on a gardé le côté spontané. Hein. C'est pas construit, c'est très spontané. Voilà. Alors maintenant, on peut aborder les gros sujets. Hein.
Oui, mais écoutez, merci Xavier Fontanet. J'avoue que la lecture est très agréable, parce qu'en effet, c'est enlevé, c'est spontané. J'ai envie de dire, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est probablement pas fortuite. Et en tout cas, bon, on voit bien que ce chef d'entreprise, même si vous avez voulu qu'il soit à la fois provincial et propriétaire de son entreprise, ce que vous n'étiez pas pour Essilor, même si vous avez sans doute pu bénéficier d'actionnariat salarié ou
Sûr.
d'autres dispositifs, c'est déjà une vraie différence. Je vois qu'en effet, il n'a pas repris l'entreprise de ses parents, et ça pose toute la question de la transmission de notre Mittelstand à la française, qui justement est beaucoup plus étroit que celui des Allemands. Et en effet, il y a 26 chapitres qui finalement, j'allais dire, font un tour d'horizon à la fois de la situation en France et finalement des pistes dont pourraient s'inspirer utilement nos différents candidats à l'élection
Voilà.
présidentielle, puisqu'il n'aura échappé à personne que dans moins d'un an, eh bien, tous les candidats auront dû justement théoriquement donner leur proposition pour la France.
À fait, ben c'est parfaitement résumé.
Alors nous allons, comme vous le dites, pouvoir commencer à rentrer dans le cœur du sujet. Alors, nous avons un léger écho, me dit la technique. Je pense que ce n'est pas de mon côté.
Alors moi, je suis au fond de la Bretagne, à Pontivy, au milieu de la campagne. Alors vraiment, le silence est parfait. Hein.
Alors, on me dit que c'est de mon côté, mais pourtant, je ne comprends pas. Je suis dans une salle totalement vide.
Peux couper mon téléphone peut-être ou... Parce
Écoutez,
que là, vraiment, c'est le silence absolu hein, pour moi. Bon,
continuons comme cela. La
continuons, puis
technique
voilà.
nous fera signe s'il y a quelque chose à faire. Oui, j'aimerais revenir sur justement votre constat de la situation actuelle de la France. J'ai envie de vous poser la question de façon un peu directe. Est-ce grave, docteur?
Ah. Oui, évidemment. Oui, mais je pense que c'est. Alors, ça dépend de la perspective qu'on prend. Si on prend une longue perspective, je dirais que c'est grave. Je crois que si les Français sont inquiets, ils ont raison, ils ont un gros bon sens et l'inquiétude des Français signale que c'est grave. Donc, je pense que c'est grave. Alors, et si, quand les choses sont graves, il faut allonger les horizons de temps. Hein, parce qu'on vit dans le court terme. Hein, le monde politique, les médias sont dans le court terme. Mais si vous voulez, moi, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Hein, j'ai commencé à travailler il y a en gros dans les années 74. Oui, je commence à travailler en 73. Et donc, j'ai une perspective historique assez longue. J'ai 50 ans. 50 ans de travail. Hein. Je suis retraité depuis une bonne dizaine d'années. Et si vous voulez, j'ai beaucoup voyagé. Hein. Toutes les entreprises dans lesquelles j'étais, c'est des entreprises qui étaient petites. Je suis toujours rentré dans les petits. BCG était une petite boîte quand je suis rentré. Beneteau aussi. Essilor était en fait numéro 5 globalement dans la profession. Et je n'ai connu que des leaders mondiaux. Voilà. J'ai connu des petites boîtes devenues leaders mondiaux. Alors j'ai au fond de moi une très grande confiance dans la capacité des Français à se débrouiller dans le monde actuel. Dès qu'on lâche les baskets, dès qu'on les met à l'international, ils font des merveilles. Hein. Et je veux dire que tous les gens d'Essilor ont fait de véritables merveilles. Voilà. Donc j'ai de ce côté-là un sentiment assez positif des Français. Pas forcément de la France aujourd'hui, mais des Français. Hein. Et on va beaucoup venir sur les distinctions à faire entre l'État, la société, la France. Hein. Mais les Français, je pense, sont très, très doués. Alors, si vous voulez, quand vous prenez un très long horizon de temps, il est évident que la France est d'un des pays développés qui a eu le moins de croissance. Vous voyez? Je donne toujours une image qui frappe. C'est que Suisse et France avaient le même PIB par tête à peu près en 73, hein, quand Pompidou, à la mort de Pompidou, en 74. Et aujourd'hui, le SMIC à Genève, c'est 5 000 euros. 4 900, 5 000 suivant les rapports entre l'euro et le franc suisse. C'est-à-dire qu'on mesure un écart absolument prodigieux, un écart de 1 à 2,5. Hein. Si vous prenez le PIB par tête, bah la Suisse flirte avec les 100 000 euros, alors que la France est à 42 000. On retrouve encore les 2,5. Et donc, il s'est passé, la France a perdu à peu près tous les 2 ans, elle perd une classe dans les classements des PIB par tête. Vous voyez, c'est à peu près la vitesse. Hein. Donc là, on peut parler d'une dégringolade qui me fait très très mal, parce que comme vous le mentionniez, moi j'ai été dans un monde des entreprises françaises très compétitives, donc les Schneider, les L'Oréal, les Air Liquide et les Essilor, et nous on a tous connu des développements absolument prodigieux. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un sujet sur le pays, puisque les Français dans des grandes boîtes font des merveilles. Donc ça m'a amené à réfléchir, si vous voulez. Et j'ai ma petite idée sur les erreurs qui ont été faites, qui expliquent la situation aujourd'hui. Et la grande difficulté, c'est que les erreurs, elles remontent à 50 ans. Voilà. Et donc là, tous les jeunes, ils n'étaient pas encore nés quand les erreurs ont été faites. Donc voilà ma grande thèse que je vais développer.
Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, Xavier Fontanet. Quelles sont justement sur les 50 dernières années, puis on pourra revenir sur certaines, bien évidemment, mais les principales erreurs que du haut de votre expérience et expertise, vous êtes en mesure de nous
Alors,
partager?
je me prends pas au sérieux, attention, hein, parce que je suis un peu un vieux retraité, hein, donc, mais merci de faire. Alors, si vous voulez, pour moi, la première erreur gravissime, ça a été, on la doit, il faut quand même nommer les choses, si vous voulez. Donc, paix à son âme, mais on la doit à Giscard d'Estaing, d'accord? Parce que Giscard d'Estaing a voulu marquer sa différence avec Pompidou et De Gaulle en changeant de tuteur économique. Et Pompidou et De Gaulle étaient inspirés par Jacques Rueff. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Jacques Rueff, donc c'était un grand économiste français qui prônait l'équilibre budgétaire. Il disait que la sphère publique ne devait pas dépasser 30% et qu'il ne fallait pas s'endetter à plus de 30% du PIB. Ce qui était très exactement la situation de la France en 1973. D'accord? Et Giscard, paix à son âme, a voulu marquer une différence. Il a été très inspiré par Stoléru. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Oui,
Lionel
c'est un ancien
Stoléru,
ministre.
ancien ministre, etc., qui était un X très brillant, qui a été à Stanford, et qui a promu en fait Keynes. Il a promu le keynésien. Il a fait un livre remarquable en 73 qui s'appelle L'équilibre et la croissance économique. Mais évidemment, moi, je me suis beaucoup, j'ai tout décortiqué dans le détail. Et quand vous regardez bien l'équilibre et la croissance économique, c'est la promotion du multiplicateur de Keynes. Donc, Stoléru était un grand matheux. Et donc, il vous faisait des tas de calculs d'accélération de l'économie avec des déficits budgétaires en expliquant que de toute façon, il y a un multiplicateur. Donc, la dépense publique fait croître l'économie en disant le monde a changé, on est arrivé à la limite des systèmes libéraux. Et il faut donc que l'État s'en mêle. Voilà. Et Giscard s'est évidemment emparé de ça. Et quand vous regardez l'historique de dette sur PIB, dette publique sur PIB, vous verrez, la 4e République a tout fait descendre. On était endetté à la fin de la guerre 39-45 avec tous les financements de la relance. Hein, on était monté à 60% du PIB et on était descendu à 30% à la mort de Pompidou. Et la première remontée, c'est le plan Giscard, le plan Pinède, endettement de Giscard en 1974. Alors, bien sûr, c'était l'époque de la crise du pétrole, donc soutenir à court terme l'économie, c'était une bonne idée, mais le problème, c'est que depuis 50 ans, on est en déficit budgétaire. Et donc, les gouvernements ont été ravis d'avoir les économistes à qui on a donné le micro qui disaient la dépense publique est favorable, etc. Vous voyez? Ça, c'est la première erreur, hein. La deuxième erreur, c'est évidemment Mitterrand. Encore une fois, faut nommer les choses. Et alors, je prends forcément de l'attitude et des idées simples. C'est l'idée du temps libre, hein. Il y a eu la promotion par Mitterrand, Jospin et évidemment Martine Aubry, la promotion du temps libre avec un raisonnement génial. En prenant du temps libre pour vous, vous donnez du boulot aux autres. Donc c'est généreux de prendre du temps pour vous. Vous voyez tout ce qu'on a pu faire autour de ça. Et c'est ça qui explique évidemment la retraite à 60 ans lancée par Mitterrand et évidemment les 35 heures. Hein. Alors on verra plus tard dans la conversation que ces deux décisions, c'est des coûts monstrueux qu'évidemment on a oubliés au fil du temps. Hein. Et alors la troisième erreur, alors c'est aussi Feu Chirac. Je fais exprès, c'est pas parce qu'il faut nommer les choses, si vous voulez. Faut être assez précis. Ce n'est pas une histoire de leur taper dessus, hein, mais c'est une histoire de nommer les problèmes. Donc Chirac était très obsédé par la fracture sociale. Hein. Alors il était influencé par Bourdieu, hein, je pense qu'il a été très influencé par Bourdieu. Et Chirac disait, la fracture sociale, c'est beaucoup plus grave qu'un déficit budgétaire. Et donc il a continué à encourager les déficits budgétaires. Et évidemment, c'est l'été de l'État-providence. Donc il a lancé cette idée funeste. Ben que l'État-providence, d'ailleurs, je ne comprends pas que l'Église ait pas râlé à l'époque en disant vous avez piqué le mot providence, je vous demande de trouver une autre expression. Et ça donne l'idée que l'argent tombe du ciel, vous voyez. Et donc l'idée que l'État n'a pas de problème, que l'État, ce n'est pas comme une entreprise, etc. Et ça a été le fameux paritarisme dans lequel l'État est rentré dans le social. Hein. Alors on a appelé ça d'un joli mot, le paritarisme, mais en fait, c'est un ménage à trois. Les ménages à trois, ça ne marche jamais. Et les conséquences de l'entrée de l'État dans le social, c'est que ça a déresponsabilisé les syndicats. Donc, je vais un peu loin, mais je préfère aller au bout de la caractérisation des problèmes. Les syndicats ont commencé à rentrer en politique, hein, parce qu'ils étaient ravis d'aller voir le Premier ministre directement. Ils se sont moins occupés de leurs sbires, hein, et d'ailleurs, actuellement, ils n'ont plus que 7%, 5 ou 7%, les syndicats français maintenant. Les gens ne cotisent plus dans les boîtes. Hein. L'État a comblé les trous des syndicats. Les syndicats sont financés par l'État. Hein. Et je trouve ça pas bien du tout. Et évidemment, ils sont politisés. Je donne comme exemple, vous voyez, les grèves qu'il y avait, par exemple. La RATP fait la grève à Paris pendant qu'on discute des retraites pour foutre le souk et mettre pression sur les députés. Alors que les gens de la RATP sont bien traités. Vous voyez le genre de truc dans lequel on arrive. Et donc, je pense que les problèmes qu'on a aujourd'hui, l'origine, c'est les trois point que je vous montre, et là je parle avec du recul, ayant discuté avec des grands dirigeants mondiaux, j'ai eu la chance de faire un livre qui s'appelle Pourquoi pas nous, où j'ai décortiqué les réformes canadiennes, néo-zélandaises et allemandes, et j'ai eu la chance de discuter directement avec les gens qui ont été les moteurs, Roger Douglas en Nouvelle-Zélande, Hartz en Allemagne et Jean Chrétien au Canada. Voilà. Et donc, c'est de cette constatation, de l'horizon de temps que je peux amener parce que je suis un vieux schnock, et des contacts que j'ai eus avec les dirigeants qui ont fait les réformes, c'est tout ça qui arrive à cette idée simple. Il y a eu trois causes il y a 50 ans. Voilà. Il y a 40-50 ans, c'est là que les bêtises ont été faites.
Alors, Xavier Fontanet, merci pour cette présentation. Et on verra en effet que d'autres pays sont ou ont été dans le passé dans une situation finalement assez comparable à celle de la France. Et là, vous nous avez donné un résumé, votre résumé de ce que vous considérez être comme les causes, les sources du déclin français. Je suis presque un peu étonné parce qu'elles m'apparaissent à la fois encore plus complexes et encore plus nombreuses. Vous voyez par exemple le regroupement familial de Giscard, le collège unique de Haby, etc. Enfin, j'en ai cité deux qui me viennent à l'esprit. Est-ce que finalement, il n'y a pas un nombre beaucoup plus important
Bien
d'erreurs
sûr.
qui ont été faites durant ces 50 dernières années?
Alors, là, vous me demandez de résumer. Donc, vous avez mis le doigt sur tous les sujets. Alors, une fois, tout ce que je viens de dire se décline après constamment, si vous voulez. Je pense que l'idée, si vous voulez, d'égalité, l'idée d'égalité, d'égalitarisme, Et au fond, quand l'État est rentré dans le social, il s'est vu responsable de réaliser l'égalité entre les gens. Vous voyez? C'est une des raisons pour lesquelles, et c'est là où Chirac a mis énormément d'argent, c'est que quand il y a eu un problème, plutôt qu'aller à la racine du problème, on met de l'argent. Vous voyez, bien sûr, quand quelqu'un est au chômage, il faut évidemment lui donner un coup de main. Hein, si c'est un chômage qui est arrivé par faillite de l'entreprise et que le gars veut travailler. Mais si vous commencez à mettre trop d'indemnités chômage, ben à ce moment-là, forcément, il faut les payer. Qu'est-ce qui les paye? Ce n'est pas l'État, c'est les entreprises. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, ça rentre dans le prix de revient. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, l'entreprise ne peut plus exporter. Et à ce moment-là, vous effondrez l'exportation et vous désindustrialisez. Hein? Et on a perdu depuis 15 ans à peu près 2 millions de jobs industriels. Vous voyez? La raison, c'est qu'on a fait porter à l'entreprise beaucoup de charges sociales et c'est l'État qui, pour assurer l'égalité, s'est arrangé. Alors, il y a eu évidemment l'accord des syndicats. Hein? Et quand vous avez l'État plus les syndicats, ben, l'entreprise, elle est en position de faiblesse. Il y en a deux contre un, vous voyez? Et donc, et c'est ça qui explique. Après, ben évidemment, le collège unique, on va dire qu'il ne faut pas mettre trop de concurrence parce que la concurrence, c'est la loi du plus fort. Donc, dans une école, on ne va pas être trop exigeant sur les notes. Si un est très bon élève, on va lui dire, écoute, on devrait te mettre 20, mais si on met 20, ça va ostraciser les autres, donc on te met 10. Puis si tu as 0, ben on dit que tu n'es pas très très bon, mais pour ne pas t'enfoncer, ben je te mets 9. Ce qui fait que le coup suivant, le gars qui travaille très bien, il ne va pas se défoncer, puisque de toute façon, ça ne sert à rien. Et puis celui qui ne travaille pas, il ne va pas se défoncer parce que tout ça. Et vous commencez à réduire les responsabilités, vous voyez? Donc les gens ont des droits A, on met du fric sur les droits A. Le fait de mettre du fric, forcément, faut le piquer sur les boîtes. Et vous attaquez le tissu industriel. La réalité, ce n'est pas l'État qui crée les jobs, c'est les entreprises. Et les trois pays qui se sont réformés, les trois dirigeants ont été très très clairs. Ils ont toujours dit, ce n'est pas l'État qui crée l'entreprise, qui crée les jobs, c'est l'entreprise. Et les meilleurs là-dedans, c'est les Allemands. Schmitt a eu la phrase géniale, le profit d'aujourd'hui, c'est l'investissement de demain et l'emploi d'après-demain. Le profit de l'entreprise est l'ami de l'emploi. Et le patron s'appelle Arbeitgeber, celui qui donne les boulots. Vous voyez? Et donc, c'est complètement à l'opposé de tout ce qu'a raconté les politiques, et notamment en commençant par Chirac. C'est l'État qui va. Vous voyez? Et comme l'État, ben, il pompe. Alors, j'ai donné l'idée du jockey et du cheval, si vous voulez. Alors, c'est une idée qui a eu beaucoup de succès il y a une dizaine d'années quand j'ai sorti mon livre qui s'appelle Pourquoi pas nous? J'ai dit, en fait, ce qui se passe, c'est très simple. Vous avez le cheval qui est l'État, le cheval qui est l'entreprise, le jockey qui est l'État. Alors, quand l'État fait 57% du PIB, le cheval, c'est 43, et le jockey, il est deux fois plus lourd. 57 sur 43. C'est un 32. Hein, 57 sur 43, c'est un 32. Donc, le jockey est 32% plus lourd. Si vous prenez un Allemand, la dépense publique en Allemagne, c'est 42-43%. 43 sur 57, ça fait 0,7. Ben, le jockey français, il est deux fois plus lourd que le jockey allemand. Deux fois. Et moi, évidemment, avec toute mon expérience des silos, j'ai pu constater ça en regardant les prix de revient des entreprises, hein, des différentes filiales. Hein. Il suffit d'avoir la comptabilité, ça saute aux yeux. Mais comme on ne donne pas la parole aux chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise n'ont pas eu la possibilité d'expliquer ça. Il n'y a que maintenant, après une très longue période, que le français qui n'est pas idiot. Ils commencent à apprécier l'entreprise, ils voient que les patrons se sont défoncés, et commencent à se dire, mais le problème, c'est peut-être que l'État qui commence à être trop gros et qui nous complique la vie. Vous voyez?
Je crois que la question de nos champions nationaux est à la fois la meilleure et la pire des choses d'un point de vue politique pour nous. Pourquoi? Parce que je pense que le grand public a l'impression qu'en réalité, quand on lui dit qu'il y a une difficulté pour la compétitivité, eh bien, c'est battu en brèche par le spectacle qu'il a de ces fleurons justement français qui réussissent de façon éclatante. Or, ce qu'il ne sait pas souvent, le grand public, c'est que l'essentiel des profits de ces grandes sociétés mondialisées aujourd'hui dans leur activité, c'est à l'étranger.
Et puis à l'étranger.
Voilà, et ce n'est pas en France. Donc là, il y a, je pense, une sorte de prisme trompeur. On se dit, mais puisqu'on a réussi
Alors.
avec notre pays qui a soi-disant plein d'impôts, comme le disent les ultralibéraux et les capitalistes, à faire aussi bien, c'est que ça ne doit pas être aussi vrai que ça. Vous comprenez,
Tout
je
à
pense.
fait. Alors, c'est là où les médias ont un rôle absolument capital. Et je me suis pris
Merci.
d'amitié. Merci. Et vous faites le boulot que vous avez un rôle historique. Vous avez en fait un rôle historique. Je veux dire, j'ai donc été en relation avec Ars. Oui, Ars, c'était le conseiller de Schröder. En fait, si vous voulez, vous savez, il y a eu une commission Ars qui était l'équivalent de la commission Attali, avec
Oui,
la
je me
différence
souviens,
qu'elle
et qui,
admirait.
avec les socialistes, a permis de libéraliser l'Allemagne, juste d'ailleurs avant la réunification, et qui a permis le succès allemand des 20 dernières années.
Voilà, alors si vous voulez, justement, Ars était le patron de cette commission, j'ai beaucoup discuté avec lui. Alors il m'a dit, écoutez, ça s'est fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est quand même en 96, Bad Godesberg, où les syndicats allemands ont pris des distances avec le Parti communiste. Hein? Puis après, il y a eu toute l'idée que je vous ai décrite avec Schmitt, qui a expliqué le profit d'aujourd'hui. Bon. Et alors, si vous
Schmitt,
voulez, les États-Unis,
qui était
c'est
un
un socialiste. Ah
socialiste,
oui, mais c'est la
un social.
social-démocratie qui est très intéressante, qui est probablement l'axe vers lequel aller pour l'Europe. Hein? Évidemment, évidemment. Mais si vous voulez, après, il y a eu. Toute l'idée avec Ars et Schröder, ils m'ont dit que ce qui a fait était déterminant pour nous, c'est que le groupe Bertelsmann, à un moment donné, est venu les voir tous les deux et il a dit, l'Allemagne est en danger, je vais vous aider à vous exprimer. Et plutôt que faire des émissions contradictoires où journalistes essayent de couler la personne qu'il invite, ils ont dit, on va vous donner du temps. Exactement ce qu'on fait, ce que vous faites avec moi, on va vous donner 1 heure et demie. On va vous donner un journaliste posé qui ne cherche pas à devenir une vedette des médias et on va essayer de vous laisser expliquer ce que vous avez. On ne va pas s'amuser à vous cogner dès que vous ouvrez la bouche. Vous voyez? Et alors donc, le groupe Bertelsmann, évidemment, il y a Spiegel, etc., mais il y a aussi toute une presse régionale, a permis à Ars et Schröder d'expliquer posément leur politique. Et la première idée, c'est évidemment, on est à 70% de dette. Notre intégrité est en danger, il faut absolument la descendre. L'État est en déficit, hein, et donc l'État est à 57% du PIB à l'époque. Hein, donc c'est beaucoup trop élevé, il faut descendre, parce que ça met l'industrie en l'air. Et à l'époque, on l'a complètement oublié, mais c'est l'époque où des boîtes comme Volkswagen avaient d'énormes problèmes financiers. Ils ont dû licencier beaucoup de monde. Et donc, ils ont donc dit, l'État ne peut plus combler les caisses sociales. Ils ont regardé les budgets. Ils ont vu que le régalien était à peu près équilibré, que tout le déficit venait du social. Et Schröder a dit, écoutez, on ne peut pas combler le trou des caisses. Et c'est ceux qui connaissent l'Allemagne, c'était le Démerdensisi. Hein. Il a dit aux syndicats et aux patronats, on reprenait en main la gestion des caisses. Mais moi, je peux pouffer de fric, vous voyez? Et alors à ce moment-là, il a eu une idée absolument géniale parce que derrière toutes ces grandes réformes, il y a eu souvent des phrases. Et ils ont lancé le concept de solidarité exigeante. Alors ça, c'est un des trucs les plus importants, je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire qu'ils ont dit, évidemment, il n'est pas question de casser le modèle social. Le modèle social, c'est extrêmement précieux. Il faut simplement qu'on le réforme parce qu'il n'est pas durable. Et ils ont lancé l'idée de comment c'est du mot là, il est tellement beau là, le mot que je voulais dire là, ça va me revenir. Il faut être solidaire, mais il faut être exigeant, vous voyez. On peut être à la fois solidaire et vous aider, mais on peut être exigeant. Et alors, ils ont dit, écoutez, si quelqu'un a un job qui n'est pas tout à fait satisfaisant, faut qu'il le prenne. Hein? C'est la solidarité exigeante. Il vaut mieux un job pas tout à fait satisfaisant que l'horreur du chômage. Même bien payé à la maison. Vous voyez l'idée? Hein, c'est la solidarité exigeante. On peut être solidaire, mais il faut être exigeant. Ça, c'est une des idées les plus fondamentales. Et c'est ça. Alors, c'est dommage parce que ça s'est passé
J'ai
maintenant,
la
il y a 20 ans.
phrase, j'ai la phrase.
Oui.
Il vaut mieux un job pas tout à fait satisfaisant que l'horreur du chômage, même bien payé à la maison.
Et ben voilà. Vous voyez?
Page 41 de votre livre.
Voilà. Et ça, si vous voulez, le groupe Bertelsmann. On a fait une espèce de phrase mythique qui a été retenue, vous voyez? Et il dit, écoutez, quand vous êtes aidé, faites le maximum pour retrouver des jobs de façon pas trop pesée sur la société, vous voyez? Hein? Le droit est associé à un devoir, le devoir de se prendre en main, le devoir d'effort, vous voyez? Et ça, c'est l'énorme gap qu'il faut qu'on remonte aujourd'hui et qui va demander beaucoup d'explications. Je pense que les Français, à la base, là, je suis en Bretagne, hein. J'ai discuté avec les paysans et tout. Ils sont travailleurs, absolument convaincus. Mais le tout, c'est d'arriver à ce que cette voix, que ces idées simples, eh bien, elles arrivent et qu'on ne dit pas tais-toi, 4,40, casse-toi. Vous voyez? Que le camp du bien n'abîme pas tous ces discours. Voilà. Donc les médias, c'est important.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie au Libre Journal du Sérapion. J'ai le grand bonheur de recevoir Xavier Fontanet, ancien président directeur général de Essilor, société du CAC 40, et aujourd'hui auteur qui nous partage ses réflexions sur les réformes à faire en France, et notamment avec son dernier ouvrage, Le grand-père et le président, aux éditions conjointes Valeurs ajoutées éditions et contribuables associés. Donc, le grand-père et le président de Xavier Fontanet. Xavier Fontanet, nous savons maintenant, et je me souviens lorsque je recevais, par exemple, le président fondateur de l'IFRAP, Bernard Zimmern, que j'étais un des premiers à accueillir à Radio Courtoisie, que nous avions des modèles comme le Canada, comme l'Allemagne, comme la Nouvelle-Zélande, qui étaient dans des situations peu ou prou comparables à la nôtre et qui s'en étaient sortis sans, j'allais dire, bain de sang ou révolution. Là où je suis un petit peu inquiet, je ne vous le cache pas, c'est que ce constat, cela fait maintenant plusieurs décennies, je dirais 25 ans que l'on peut le poser, et on s'aperçoit que lorsqu'on le regarde, droite ou gauche, les derniers mandats présidentiels, que ce soit Chirac, mais aussi Sarkozy, Hollande, Macron, et aucun ne souhaite véritablement sortir de cet enfermement et de cette spirale de l'endettement. Dont là, on se demande si l'on peut en sortir autrement que par un défaut. C'est ça aussi d'où vient l'inquiétude des Français.
Bien sûr.
Alors évidemment, comme je le disais dans nos entretiens préalables, moi, ça fait 25 ans que je dis que ça ne va pas bien se terminer. Mais jusqu'à présent, je passe simplement pour un horrible pessimiste, car jusqu'à présent, tout va bien, comme lorsque l'on tombe du haut d'un building, ben, jusqu'au premier étage, tout va très très bien.
Oui, évidemment, je crois que le temps, maintenant les gens commencent à comprendre que on leur a quand même raconté des carabistouilles. Je pense que le français de base, se rend compte qu'on raconte des carabistouilles. C'est vraiment une histoire de médias. Hein. C'est à qui on donne le micro. Hein. Je pense que c'est là. Vous savez que Pompidou, qui était très très fin, à la fin de sa vie, était obsédé par les médias. Et je vous conseille de lire, malheureusement, son fils Alain est mort. Mais Alain avait fait un livre extraordinaire. Il a pris tous les courriers de Pompidou de sa dernière année. Il les avait tous. Hein. Et je vais dire, 70% des courriers de Pompidou avaient été sur les médias. Donc, soit il engueulait, soit il félicitait, soit un ministre, soit un patron de presse. Toujours sur la véracité, vous voyez. Donc, il s'était rendu compte. Et je pense il faut vraiment que, probablement, les médias doivent faire un code d'éthique, il faut qu'ils le fassent eux-mêmes. Il est hors de question que quelqu'un s'en occupe. Mais il y a une notion quand même de se poser un problème. Si vous voulez, on peut avoir des opinions politiques. Alors, si on les met dans son média, ben, faut dire que c'est un média politique. Hein. Mais on a quand même pas mal de médias qui sont quand même très politiques et ne le disent pas. Vous voyez, c'est le camp du bien qui a pris un. Il est évident que Mitterrand, toute la gauche, a fait un énorme effort sur tout ce qui est communication. Sur communication, éducation et nationale et justice, il y a eu un énorme effort de la gauche pour pénétrer tous ces domaines, si vous voulez. Et on a commencé à politiser un peu tout ça. Hein. Moi, je parle assez franchement. Hein. Et je sais que tous les Français sont tout à fait d'accord avec ça. Hein. Et c'est ça qu'il faut arriver à remonter. Il faut discuter posément. Et l'intérêt du bouquin, justement, c'est une discussion posée, ah, ben, bien sûr, entre un mec de droite et un mec de gauche, hein, un grand-père de droite et un petit-fils qui est en même temps, mais qui est en fait de gauche. Hein.
Social-démocrate, pas de gauche,
On
social-démocrate.
va dire social-démocrate, mais alors à ce moment-là, il faut aller plus loin, si vous voulez. Hein. On va dire qu'il est social-démocrate, mais si vous voulez, sur les déficits, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais eu. Les déficits n'ont jamais été si forts. L'augmentation de l'endettement n'a jamais été. Il y a 1 000 milliards hein, depuis 7 ans. Hein. Vous savez, c'est très, très facile à calculer, la dette. Hein. La dette, il y a en gros 150 milliards de pertes. Il y avait zéro en 73. Hein, 75 en moyenne, vous avez 50 ans, 50 par 75, ça fait 3 500. C'est exactement la dette qu'on a. Donc la dette, c'est l'accumulation des déficits. Et on s'est pris 1 000 milliards depuis 7 ans. Hein. Donc
Alors là,
c'est
je pense
assez
que
sévère.
tous les Français en ont conscience, Xavier Fontanet, mais alors
Et le
justement,
président? Et le
qu'est-ce qu'il
président?
faut faire? Alors,
Quel
le
président?
président, alors le président,
Alors, où il n'est
je
pas
pense que
conscient
le
et c'est grave,
président,
où il est conscient et il fait rien, c'est encore plus grave, hein?
je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il en a parfaitement conscience parce que c'est quelqu'un
Comme
d'intelligent,
ça,
quoi
c'est
qu'on pense
compliqué.
de.
Expliquez les choses. Les
Oui, mais.
ministres des Finances ne sont pas assez fermes, si vous voulez. Quand vous regardez les déficits, donc le déficit, on nous a toujours dit que la retraite était en déficit quasiment 0,10. Vous avez vu la vérité. La vérité, c'est que les retraites sont en déficit de 70-80 milliards parce qu'il y a eu des compensations des retraites des fonctionnaires qui ont été faites sous des subventions masquées. Alors, vous vous rendez compte le truc? Donc, on dit aux Français, ça va. Et la vérité, il y a une. Et on accuse les grosses boîtes de faire trop de résultats. Là, je m'excuse, il y a un moment donné, il faut. Alors, moi qui suis vraiment retraité, vous voyez, je me sens dans l'obligation de commencer à dire un certain chose, nombre de choses, même si je me fais engueuler. Hein.
Alors
Moi, j'étais
justement,
toujours dans la vérité, et c'est comme ça qu'on a fait monter nos boîtes, c'est en respectant les chiffres. On n'a jamais mis des mots. Quand il y a un problème, on dit. Moi, il y a 4 ou 5 fois, j'ai été amené à faire des restructurations extrêmement fortes. Eh bien, c'est parce qu'on regarde les chiffres et quand ça ne va pas, on dit pas ben, c'est la division des verres qui va subventionner les verres de contact. On dit non, il y a un problème de verres de contact, on le règle. Vous voyez?
Xavier Fontanet, aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le constat. Il y a 3 500 milliards de stocks de dettes et il y a 150 milliards de déficits annuels qui sont donc peu ou prou 150 milliards de flux de dettes supplémentaires par
Le
construction.
déficit.
Donc, que fait-on? Comment
Oui.
fait-on?
Alors, j'ai rajouté. Alors attendez, je vais rajouter. Alors, on va faire l'économie très simple. On va faire l'économie. Vous allez prendre votre crayon. Je vais vous guider. Est-ce que vous avez une idée des actifs de l'État? Ah, il y a
Oui,
un passif.
j'ai une certaine idée. Je crois que c'est autour de 4 000 milliards.
4 000 milliards. Bah, bravo. Alors écoutez, la fantastique, c'est 4 000 milliards. Hein. Donc, les actifs moins la dette, 500. Donc, 150 sur 500, il y en a pour 3 ans. Dans 3 ans, c'est vraiment très grave. D'accord? Alors moi, j'ai vécu la faillite argentine. Est-ce que vous savez de combien on a baissé les retraites et les salaires des fonctionnaires en Argentine?
Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'en Argentine, parce que je cite souvent cet exemple, la situation a été horrible pour toutes les catégories
Oui.
socio-économiques,
Sauf les militaires, oui.
du plus aisé au plus modeste.
Oui.
Les bourgeois n'ont pas été épargnés, pas plus que l'ouvrier, le fonctionnaire, etc.
Alors, je vais vous dire, en fait, ça a baissé en gros 30 à 40 %. Hein. Moi, j'avais. Essilor était très très fort en Argentine parce que, si vous voulez, l'Argentine était le plus gros marché de l'Amérique latine pour une raison très simple, c'est que les Juifs allemands avaient quitté l'Argentine au moment de la montée en puissance d'Hitler et tous les opticiens allemands ont monté un business génial. Donc, on avait un très gros business en Argentine hein, qui venait de cette origine. Et donc, moi, j'ai vécu les trucs de très près. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, les médecins, les hôpitaux n'ont pas pu payer les médicaments. Donc, les gens ont commencé à mourir dans les hôpitaux. Puis après, ils ont réduit les paiements à la fois des retraites et des fonctionnaires. Les seuls qui n'ont pas trop réduit, c'était les flics et les militaires qui avaient les armes. Hein. Bon, je passe comme ça. Alors, la sphère publique a beaucoup plus souffert que la sphère privée. Alors, je vais vous faire un calcul très rapide. Si vous ajoutez les retraites, hein, l'ensemble des salaires des fonctionnaires et de la santé, vous avez en gros 1 000 milliards hein, de valeur ajoutée sur les. Bon. Si vous prenez un déficit de 150 milliards et qu'il y a un problème de paiement, vous aurez un manque de cash de 300 milliards parce que vous aurez le déficit à payer et c'est la dette, elle est sur 20 ans, donc vous n'arrivez pas à la renouveler. Hein, donc 3 500 milliards sur 20 ans, ça fait 175. Donc il va vous manquer 175 plus 150, c'est 325. Eh bien, vous rapprochez les 325 de 1 000 milliards et vous avez 32,5 %. Prenez ChatGPT. Allez demander à ChatGPT ou à Mistral ou à Claude de combien on a baissé les salaires des fonctionnaires en Grèce et au Portugal. Vous allez voir.
Je crois que c'était 30% de mémoire.
Oui, exactement. Donc, le chiffre de 30 %, c'est celui qui nous pend au nez. Alors, je ne veux pas non plus faire peur à tout le monde, mais il faut que les Français commencent à tous les niveaux, hein. À tous les
Donc,
niveaux, et en
Xavier
des masses
Fontanet,
comme ça.
excusez-moi, je me permets juste de vous interrompre pour vous faire préciser votre pensée. Vous dites qu'il faut baisser le salaire,
Non,
j'allais dire
non.
des fonctionnaires, de 30%, ou vous dites que si rien n'est fait, ce sera la
Je dis
conséquence?
que si rien n'est fait, et si on a une vraie crise financière, alors peut-être tout ça ne se passera pas aussi violemment, mais si on a une crise financière à la grecque, ou à la mexicaine, les ordres de grandeur qu'on a observés forcément, ça nous tombera dessus. Et les chiffres, il suffit de faire des chiffres. Vous avez
Alors,
vu que
Xavier
les
Fontanet,
dégâts.
d'accord. Et alors,
Bah
donc, je
oui.
repose ma question. Que faut-il faire pour
Alors
éviter?
attendez, alors je vais vous dire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut dire que la situation, elle est plus grave que ce qu'on raconte. C'est-à-dire que le risque, ce n'est pas 150, c'est 300, mais que ça se résout beaucoup plus facilement si on raisonne vraiment comme un ménage et commence à regarder les chiffres. Hein? Alors ça, c'est la deuxième partie de mon raisonnement. En fait, on peut s'en tirer beaucoup plus facilement qu'on croit si on change de soft. Alors, je vais préciser les choses. L'erreur stratégique, ça a été de penser que c'est l'État qui arrange tout. Tous les pays qui se sont retournés ont dit que l'État, il doit rester sur le régalien. Son boulot, c'est d'assurer l'ordre intérieur, la justice et l'ordre extérieur. Et tout ce qui est social, soit vous le faites à l'allemande, c'est les syndicats et le patronat qui s'en occupent, soit vous le traitez à la Néo-Z ou à la Suisse, on confie tout le domaine à des assurances privées. Deux possibilités. Bon, si on ne veut pas que le social soit géré par les assurances, c'est au patronat et au syndicat de les gérer, sachant que l'État ne comble plus les trous. Bon, alors, les trous, je vais vous dire, c'est très simple, hein. Les 150 milliards de l'État, il y a 50 milliards de régaliens, 30 milliards de la santé et 70 milliards sur les retraites. Alors, évidemment, il va falloir revenir sur le temps de travail. Parce que l'erreur funeste de Mitterrand, c'est faire croire qu'en travaillant moins, on fait travailler les autres. Et c'est ça qui nous fait couler. Donc, il faut évidemment revenir à ce que font les Européens. La France ne sera écoutée que si elle colle aux Européens. Alors, faites un calcul très simple. Si on revient de 35 à 40 heures, prenez votre calcul. Il y a combien d'employés en France? Alors, je vais vous donner tout de suite, on va dire 25 millions. Salaire moyen, hors taxe, 20 euros l'heure. On va mettre 5 semaines de congés payés. Donc, on va travailler 47 heures. Alors, vous faites le calcul et puis on fait 40 heures par semaine. Alors, faites le calcul, 25 millions par 20 euros, par 47, par 40, vous allez tomber sur 200 milliards à peu près. La moitié, en gros, la moitié, c'est les recettes fiscales. Donc, retravailler 40 heures, ça ramène 100 milliards. Deuxième raisonnement, la retraite, tous les Européens passent à 57 ans de départ.
67 ans.
67 ans, pardon. Alors, on est à 62. Quand vous décalez une année, alors les retraites, vous savez combien les cotisations? 310. Combien d'années on cotise? 40 ans. Ça veut dire que les cotisations, une année, c'est 8 milliards. Les
Enfin,
prestations?
on cotise 42,9 ans très exactement aujourd'hui.
Oui, alors je mets 40, hein, je suis dans les ordres de grandeur. Hein. Attendez, il y a plus de 300 milliards, vous allez voir. Je suis dans l'ordre de grandeur, hein, d'accord?
D'accord.
Maintenant, les prestations, c'est combien? 380, 490? Prestations 25 ans? On décale d'un an, on réduit les prestations de 15. 15 plus 8, c'est 23. Donc chaque année de décalage, c'est 23. Si on décale de 62 à 67, 5 ans, 125 milliards. Donc si on se remet à travailler comme nos voisins, 100 milliards. Si on se met à travailler en retraite, on fait rentrer 125 assez facile. Bon, maintenant, dernier sujet. Est-ce que vous savez combien on a de fonctionnaires?
Oui, on a à peu près 5 ou 6 millions
On a
sur
5 millions 7 pour
sur les
68 millions
trois
d'habitants.
fonctions, alors sur les
Les
trois
Allemands ont
fonctions
combien?
publiques.
Les Allemands ont combien?
Les Allemands, de mémoire, ils ont le même nombre, mais ils sont 20% de plus.
Non, ils sont 4 millions 5. Ça, c'est vérifié, hein? Alors, vous pourrez vérifier tout ça.
Et
Pour
ça se retrouve
70,
surtout
80
dans
millions
votre
d'habitants.
ouvrage.
En gros, mais allez sur ChatGPT ou tous ces trucs-là, vous verrez, on a un fonctionnaire pour 12 habitants, les Allemands un pour 18. 2 millions de trop, 2 millions par 70 000, ça fait 140 milliards. Donc, si on se recale sur les temps de travail allemands, hollandais, hein, en retraite et en durée de travail, vous savez que les Français sont ceux au monde qui travaillent au moins longtemps, hein. On est à 50 000 heures sur la vie. Alors que les Allemands sont à 75, les Américains à 80 et les Chinois à 90. Hein. Bon. Donc, en tout cas, on est ceux qui travaillent le moins. Si on se remet dans les normes hollandaises et allemandes qui ne sont pas des bagnes. Hein. Ce n'est pas des bagnes, l'Allemagne. Et si on se met à la productivité de cette fonction publique, vous voyez qu'on a 300, 350 milliards faciles. Alors, ça ne va pas se faire en un an. Il faut un plan moyen terme. Et ma grande thèse, c'est qu'il faut sortir du concept budgétaire, il faut faire un plan moyen terme. On ne va pas bousculer tout du jour au lendemain, on va simplement augmenter. Et si on revient, alors il faut expliquer aux gens aussi que les 40 heures, si vous voulez, le temps de travail, c'est d'énormes recettes. Vous voyez, les 100 milliards que vous amenez en travaillant autant que nos voisins, c'est 20 fois l'ISF. 20 fois. Hein. Donc, quand on dit on peut taper les riches, c'est que les gens qui disent ça ne sont pas dans les ordres de grandeur. Ils ne sont pas dans les ordres de grandeur. Et donc, vous avez 100 milliards qui viendraient en revenant à 40 heures. En gros, 100, 125 si on remet la retraite à 67. Et en gros, 140. Si on se met à la productivité allemande. Alors, les fonctionnaires, il ne faut surtout pas dire on arrête tout. On arrête de recruter. Et on utilise l'intelligence artificielle, comme le font maintenant plusieurs pays, notamment la Corée, je ne sais plus quel pays européen. On a une opportunité phénoménale pour assurer le service public en ne recrutant plus. Vous voyez? On ne va pas dire qu'on passe tout de suite à 67 ans. On va dire on augmente de 3 mois de 3 mois tous les ans. Vous voyez? Et à ce moment-là, on aura la capacité. Donc ma thèse, c'est que la situation est plus grave, mais que si on raisonne comme une maîtresse de maison, avec une feuille très simple, que des calculs sur dos d'enveloppe, comme on le fait pour son ménage, en fait, la situation, elle se retourne en 7-8 ans. Il faut simplement le changement de soft en disant qu'on a été trop loin, on va regarder ce que font les autres qui s'en sont tirés. Parce que quand vous prenez les chiffres allemands et les chiffres néo-Z, vous verrez les dettes descendent. Vous voyez la dette descendre. Hein? Et donc tout ça, ce n'est pas du pipeau. Et il faut avoir l'humilité de faire comme les autres. Vous voyez? On n'est pas différent. Il faut apprendre des autres humblement. Il faut être humble devant les faits. Voilà. Il faut donner la parole à des gens comme moi. Merci de la donner. Mais et il faut qu'il y en ait d'autres parce que moi, je ne prétends pas avoir raison. Hein? Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent comme moi, je vais vous dire. Hein? Par contre, il y a un vrai sujet de micro.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, au Libre Journal du Sérapion. J'ai le plaisir de recevoir Xavier Fontanet autour de son dernier ouvrage, Le Grand-Père et le Président, aux doubles éditions Valeurs ajoutées, éditions et contribuables associés. Et je crois que nous devons passer un bobino important pour la vie de notre chère radio.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Nous nous retrouvons donc dans le studio pour continuer notre entretien passionnant avec Xavier Fontanet. La question quand même que j'aimerais vous poser, et c'est de là que vient mon inquiétude, car sur le constat et les solutions, je crois qu'en effet, on peut en trouver, car en effet, d'autres pays en ont trouvé, et que la France n'est quand même pas le pays le plus arriéré qui soit, en tout cas pour le moment. Mais ce que je constate, c'est que aussi bien dans les Français que je côtoie, on ne doit peut-être pas tout à fait côtoyer les mêmes, que dans le personnel politique, eh bien, il y a un refus de mettre en œuvre ce type de réforme. Et vous le constatez d'ailleurs lorsque vous regardez les programmes politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite. Aucun ne veut véritablement baisser le déficit. Et je vais donner deux exemples qui me semblent intéressants, puisque Radio Courtoisie est un média qui est le média qui donne la parole à toutes les droites en matière politique et à tous les talents en matière culturelle. Eh bien, toutes les droites, dans leur immense majorité, je pense au LR ou au Rassemblement national, soit les LR, bah, quand ils ont été au pouvoir, ils n'ont fait qu'augmenter les déficits sans jamais réformer. Depuis, vous l'avez dit, depuis Valéry Giscard d'Estaing, quant au Rassemblement national, tout le monde lui reproche un programme encore à tort ou à raison, encore une fois, mais perçu à tort ou à raison comme encore plus socialiste que le programme des LR qui déjà nous a amenés à l'abîme. Donc moi, je suis quand même un petit peu inquiet d'une part et d'autre part dubitatif sur la capacité des Français et de la représentation nationale à porter et mettre en œuvre ce discours de réforme.
Alors, je pense d'un premier point, c'est que les médias, Il faut que les médias donnent plus la parole à des gens comme nous. D'accord? Parce qu'en gros, il y a eu un monopole, là, ils ont été monopolisés par toute une certaine bien-pensance. Hein? C'est absolument évident. Donc je pense que les médias doivent, de ce point de vue-là, faire comme ont fait les collègues canadiens. Jean Chrétien m'a dit la même chose sur le Canada. Hein. Jean Chrétien m'a dit qu'il a été bien aidé par les médias et qu'ils ont fait une année. Avec Jean-Paul Martin, il y avait un génie avec Jean Chrétien qui était Paul Martin, banquier qui était son ministre des Finances. Et Jean Chrétien, à qui j'ai montré mon livre, Pourquoi pas nous, pour vérifier que je racontais pas trop de sottises, il m'a dit, votre livre est exactement ce qu'on a fait. Il a rajouté qu'ils ont fait une année de visite de toute la France, de tout le Canada, région par région, pour expliquer leur truc. Vous voyez? Et donc, il y a vraiment un vrai sujet de capacité de médias. Bon, deuxièmement, les chefs d'entreprise, on est en train maintenant quand même, les actifs et les anciens, je pense, vous avez vu qu'on commence quand même à élever un peu la voix. Hein? Alors bon, bah, on sera pris comme on croit. Je crois qu'après le gros travail, c'est effectivement travailler les hommes politiques, il faut travailler aussi les syndicats. Il y a une partie des syndicats qui sont tout à fait à prendre des responsabilités. Hein? Mais effectivement, c'est un travail important. Et ça, c'est tout ce qui est en jeu dans cette année 2026-2027. Et donc, alors, ce que je constate quand même, c'est que les Français ont compris quand même qu'il y a un sujet avec l'État. Hein? Tout le monde maintenant est pris par la complexité. Je ne sais pas, abusez-vous avec la sécurité, tous les papiers, tout ça. Et alors, ce qui est très intéressant, je veux dire, ce qui m'arrive, c'est qu'il y a beaucoup de très hauts fonctionnaires qui sont près de la retraite, qui m'ont dit, Monsieur Fontanet, c'est mon rêve, on fait un livre comme le grand-père et le président, vous et moi. Donc c'est des très hauts fonctionnaires au plus haut poste de l'État qui sont conscients que ça débloque. Et ça, c'est un phénomène nouveau. J'ai trois hauts fonctionnaires, je ne peux pas dire les noms, de tout haut niveau, il y en a déjà un que vous connaissez sûrement, qui ont commencé à dire, écoutez, vraiment, ça ne va plus. On ne serait pas contre l'idée de commencer à refaire un livre. Alors, il a lu Le grand-père et le président, et puis il me passe un coup de fil, il faut quand même le faire. Hein. Et il y a aussi une femme absolument remarquable, qui a un poste élevé, qui m'a dit, je pars à la retraite très bientôt. Alors, elle a dit une idée assez astucieuse de refaire une commission Arts, autoproclamée, avec des fonctionnaires, des entrepreneurs, on prendrait un paysan, vous voyez, on prendrait deux jeunes. Et avec ça, on s'amuserait à écrire un rapport Arts autoprogrammé. Alors ça, ce mécanisme est nouveau. Et là, vous voyez, je suis invité énormément en province pour faire des conférences. Et vous seriez demain assisté, vous seriez stupéfait. Vous verriez, vous verriez tout. Donc ça veut dire, je pense que le fond du pays commence à réaliser. Les Français ne sont pas idiots. Hein. Et moi, j'ai eu l'expérience. Alors ça peut très bien rater. Hein. Si le camp du bien continue à avoir tous les micros et éloigne tout le monde, il y a un risque réel qu'on aille vers les très graves soucis. Hein. Mais je crois aussi qu'il y a des signes, il y a des signes encourageants. Et moi, je sais que j'en suis un peu un mini réceptacle. Hein. Et puis moi, j'ai commencé à rencontrer plusieurs hommes politiques très connus lors de déjeuners en tête-à-tête où j'ai fait ces mêmes calculs. Hein. Donc
Et
la
alors
confiance.
justement, et sans rien dévoiler de vos échanges, que ce soit avec des hommes politiques ou des hauts fonctionnaires, vous, c'est ce qui serait une excellente nouvelle, je ne vous le cache pas, vous avez tout de même l'impression qu'il y a une prise de conscience, on va dire finalement, dans toutes les strates de la société, donc y compris des représentants, je ne sais pas moi, du Parti socialiste, des macronistes, des LR et du Rassemblement national, commencent à comprendre que ça ne va
Et
pas
la
bien
haute
se passer et
fonction
qu'il va.
publique. Je veux dire, le plus important, c'est la haute fonction. Pour moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la haute fonction publique. Il y en a deux ou trois qui ont commencé à dire, écoutez, on est tout à fait prêt à collaborer entre hommes ou femmes de bien, vous voyez, soucieux du pays. Hein? Et donc, ça, moi, c'est nouveau. Hein. C'est depuis 6 mois que j'ai le signe. Hein.
Je
Il y a
pense que
même des
les alors.
jeunes. Vous voyez, j'ai un jeune qui est un des meilleurs inspecteurs des finances, un tout jeune. Eh bien, il a demandé de me rencontrer. Et je sais qu'il va me proposer la même chose. Donc, il y a dans la fonction publique des gens qui sont en train de bouger. Et puis, il y a aussi les très anciens, les Jacques Delarosière, vous voyez, des gens comme ça. Vous avez vu les bouquins qu'ils ont sortis. Jacques Delarosière, c'est un monument. Hein. Et il a décortiqué toute l'histoire des retraites, hein, Jacques Delarosière. C'est lui qui a dit le premier qu'il y avait un très gros déficit sur la retraite. Hein. Et là, il dit, vous comprenez, c'est très grave, parce que c'est à la fois les ministres des Finances qui n'ont pas été transparents, c'est quand les chiffres ne sont pas là, il y a un problème de transparence de chiffres. Vous comprenez? C'est ça le problème.
Mais je crois que la haute fonction publique est tiraillée entre le constat implacable de la vérité des chiffres et qui transcende des orientations partisanes, avec certains qui sont extrêmement politisés. Et figurez-vous que récemment, dans une grande enseigne parisienne où il y a plein de livres en plein milieu de Paris et qui est une très grande et qui vend beaucoup de livres, je regardais les étals sur les livres économiques et il y avait notamment un livre d'un haut fonctionnaire. Jeune haut fonctionnaire énarque qui expliquait tout ce qu'il fallait faire. Et il expliquait qu'il fallait socialiser et nationaliser la plupart des activités économiques pour que l'État puisse enfin faire une république sociale, socialiste,
C'est ça,
égalitaire.
bon, ben vous avez aussi.
Donc aujourd'hui, on a, je
Ben,
crois, il n'y a
y a
pas
une
de
lutte.
consensus
Il y a une
aujourd'hui.
lutte, il y a une lutte, il y a une lutte,
Il y a une
il y a une
lutte,
lutte.
voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, je voulais
Alors, ce
vous
qu'il y a, c'est que c'est
interroger.
aux fonctionnaires, si vous voulez. L'autre sujet, c'est, si vous voulez, quand vous avez été, et je parle pour tous mes collègues patrons d'entreprise, mais des grandes et des petites, hein, parce qu'on parle beaucoup du CAC 40, mais vous avez beaucoup de PME qui sont des leaders mondiaux, hein. Il y a beaucoup aussi, hein. Eh bien, c'est ces gens-là, c'est ceux qui sont frottés à l'international. Parce que le vrai sujet, De Gaulle le disait, nous sommes dans un monde concurrentiel. L'énorme erreur qu'a fait Giscard, c'est que le multiplicateur keynésien fonctionne en économie fermée. Et il a utilisé le multiplicateur au moment où l'économie s'ouvrait. Vous vous rendez compte,
Oui,
les
donc
trucs.
ça a subventionné nos compétiteurs, pour dire les choses
Et
simplement.
évidemment, ça a subventionné. Hein. Et donc, je pense que il est sûr qu'il y a des gens qui vont expliquer qu'il faut tout nationaliser. Mais alors, à ça, on explique, écoutez, les nationalisations, ben, c'est le pays communiste, on sait très bien, tout ça n'a jamais marché. Hein. Donc, quels sont
C'est
les
pas parce que
exemples?
ça n'a jamais. Oui, mais ce n'est pas parce
Ben,
que ça n'a
ça a
jamais
été fait en
marché
Russie,
que.
ça a été fait, ça a déjà été fait, ça a tué des millions de personnes. Donc, non, mais c'est sûr qu'il y aura des maisons d'édition qui publieront des bouquins de gens qui n'ont jamais été dans l'entreprise. Vous savez, moi, un truc très important que je dis toujours, c'est est-ce que vous avez fait une vente? Est-ce que ça vous est arrivé de faire une vente? Une vente, une vraie vente. Ouais. Bon. Et puis après, deuxième sujet, est-ce que vous avez fait une vente rentable? D'accord? Une vente qui gagne de l'argent. Ah oui? Ben, vous savez, tant qu'on n'a pas fait ça, hein, est-ce que ça vous est arrivé de perdre des ventes? Moi, ça m'est arrivé. Avec Essilor, avec Beneteau, on a perdu des clients gigantesques. Il a fallu fermer des usines en perdant un gros client, vous voyez? Et alors, je me suis amusé à ce moment-là avec le gros client. On a dit, non, non, je ne vais pas donner le nom de la chaîne. J'ai dit, non, ce n'est pas le licenciement Essilor. Hein. J'ai dit, c'est le licenciement du nom de la marque. Alors, le grand président de la boîte était écœuré. Mais j'ai dit, attendez, ce n'est pas nous qui licencions. C'est vous qui avez licencié en passant la commande à un Chinois. Hein? Bon, alors
Mais
après, on a repris.
parce que nous n'étions plus compétitifs.
Oui,
C'est la
non, non,
loi
parce
des
que le Chinois,
affaires.
alors en l'occurrence, le Chinois avait triché, et au bout de 3 mois, le Chinois a arrêté de livrer le gars. Donc le gars est revenu. Vous voyez, il s'était fait avoir. Et là, je peux vous dire qu'on a fait des contrats à long terme. Vous voyez? Bon. Mais tant que vous n'avez pas vécu ça, tant que vous n'avez pas vécu ça, comment pouvez-vous
Alors,
dire, en
justement,
nationalisant, comment pouvez-vous dire ça?
Xavier Fontanet, je voudrais vous interroger
Invitez
justement sur.
le gars qui a fait le truc là. Invitez-le, amusez-vous à le taquiner.
Alors, je pense que pour une raison purement idéologique, il refusera de venir,
Ah.
car il y a un certain nombre de personnes que j'invite, même si elles ne sont pas de notre
Eh ben voilà, eh
bord au
ben.
sens très large du terme. Moi, je n'ai jamais peur du débat. Personnellement, je pense m'en sortir à peu près
Oui, ça
correctement.
je tout à fait. On discute depuis quelque
Voilà,
temps, la
si
bouteille tout
je.
ça fermée.
Bon,
Ben, j'ai aucun souci,
du
hein.
sais-je ma modestie en
Ah non, non, en
souffrir?
souffrir énormément, j'ai aucun souci pour vous. Allez-y. Mais invitez-les pour
Oui,
qu'ils refusent. Invitez-les. Et
oui,
s'ils
alors,
refusent, vous direz, ils refusent.
vous savez que je suis également entrepreneur, donc mon temps est
Ben bien
compté
sûr,
également, hein.
ça se voit tout de
Alors, je
suite.
voulais, Xavier Fontanet, aller sur cette question de l'international, parce que je pense là aussi qu'il faut expliquer aux Français, et là aussi ils le sentent peut-être confusément, que si l'on veut rester, et ça n'a rien à voir avec la question du protectionnisme, qui est une modalité de relation internationale plus ou moins ouverte, mais. Si l'on veut rester dans le concert des nations, nous sommes, qu'on le veuille ou non, et sur tous les aspects, économiques, sociaux, militaires, politiques, géopolitiques, géographiques, miniers, ressources naturelles, énergie, en concurrence féroce avec le
Bien
reste du
sûr.
monde, et y compris avec nos alliés Et s'il y a une chose dont on peut remercier Trump, c'est peut-être de nous avoir ouvert les yeux sur le fait que nous devrions peut-être prendre notre destin en main. Donc,
Oui,
il faudrait
parce que.
expliquer aux Français que, sauf à revenir dans un système totalement autarcique tel l'Albanie, nos décisions se mesurent à l'aune de ce que nous allons pouvoir capter ou non de la production de richesses mondiales. Donc, on peut faire les plus grandes envolées lyriques et les propositions les plus délirantes. Si derrière, elles s'avèrent être destructrices de valeurs parce que nous n'arrivons pas à nous intégrer dans le concert des nations, au sens large du terme, eh bien, nous allons décliner.
Sûr. Oui, alors écoutez, alors là, bien sûr, alors là on change complètement de sujet, d'accord?
Ben oui, mais
On
l'international, c'est
prend une
quand
autre
même un
perspective. Alors,
sujet.
il est évident que ce qui se passe avec évidemment Trump, avec
Chapitre
l'Amérique,
15. L'Europe
voilà.
a-t-elle des cartes pour s'en sortir dans le monde
Voilà,
qui vient,
absolument.
cher
Alors,
Xavier?
j'ai, si vous voulez, moi je pense que ce qui se passe est absolument fondamental actuellement. C'est-à-dire qu'évidemment, donc comme c'est dans tous les journaux, et là je crois que les gens ont raison là-dessus, il y a un changement énorme qui arrive, hein, c'est que toutes les règles du commerce sont en train de changer. Donc on a des blocs, il y a un bloc américain, il y a un bloc chinois, il y a un petit bloc russe. Bon, donc ça, c'est des réalités. Donc le monde est complètement en train de changer. Alors dans ce cas-là, si vous voulez, la France devient un pays moyen. Et la première idée, c'est que la France ne peut s'exprimer qu'à travers l'Europe. Hein, donc le bloc qui peut résister, c'est l'Europe. Alors l'Europe, c'est quand même une très très belle construction depuis la guerre, hein, puisque c'est quand même, bon, on va dire qu'il y a trois économies mondiales qui sont à peu près du même ordre de grandeur, l'Europe, les États-Unis et la Chine. Hein. Et donc l'Europe est quand même un énorme truc. Hein. D'accord, donc il faut dire que l'Europe a, même si ça branle dans le manche actuellement, l'Europe a quand même fait un sacré boulot. Hein, depuis la construction, il faut rendre hommage à tous ceux qui ont construit l'Europe. Hein. Bon. Donc il faut s'exprimer. Alors le problème pour la France, c'est que pour avoir une voix en Europe, il faut avoir des comptes en ordre. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est important pour que la France contribue, il faut qu'elle ait des comptes en ordre. Et à ce moment-là, alors par contre, je pense que l'Europe, si vous voulez, elle a quand même des capacités. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que, bon, moi je ne serais pas très fier d'être américain, hein, bon. Je pense que ce qui va se passer, c'est que tous les
Je ne
gens.
sais pas si j'étais fier ou pas d'être américain, mais aujourd'hui, je préférais être un citoyen américain parce que j'ai l'indépendance énergétique, je sais que je serai nourri, j'ai un grand territoire où je peux faire vivre ma famille, et en plus, j'ai la première armée du monde, donc je pense que je vivrai en sécurité.
Ouais.
Donc,
Oui, mais alors le respect de l'homme, oui, alors le respect de l'homme, hein.
alors
Oui, ah, on
justement,
respecte l'homme, oui, le pape, c'était bien le
que
pape, là,
l'Europe,
oui. L'arrogance,
justement, que la
l'orgueil, un pays
France est le.
orgueilleux, vous voyez. Bon, on va discuter, hein.
Oui,
Mais
non,
alors
mais
attendez, je vais vous
justement,
dire,
je vous titille
vous
justement sur
titillez,
ce
bien
point.
sûr.
Moi, je pense que
D'ailleurs, je vois qu'aussi
vous
tu
voyez bien
rigoles,
quand même que la
ce qui est très
France et
bon
l'Europe
signe,
ne
ce
sont
qui est
pas
très
en
bon signe.
mesure aujourd'hui d'assurer la sécurité matérielle,
Oui.
économique. Vous voyez qu'on parle
Non,
de la
mais.
justice et militaire de notre continent. Ça pose un
Absolument. Attendez,
problème.
attendez, attendez, attendez. Il est évident que les mouvements qui doivent passer, c'est qu'évidemment l'Europe se ressaisisse. Il y a beaucoup de trucs qui ne marchent pas. Donc il faut qu'elle se ressaisisse. Il faut évidemment qu'elle s'arme, non pas pour faire la guerre, mais la prévenir. D'accord? Et alors, si vous voulez, j'ai travaillé dans tous les pays du monde, vous voyez? Et donc, j'ai eu la chance d'avoir des filiales avec les Japonais, les Coréens, des Chinois, des Indiens, des Américains, les Européens. Je pense qu'il y a une force absolument extraordinaire dans l'Europe dont on ne parle pas assez. Et je prends l'image de la découverte de la relativité. Vous voyez? La relativité, Einstein était un génie, mais heureusement qu'il avait l'Italien Fermi, le Français De Broglie, l'Autrichien Schrödinger, l'Allemand Planck. Qui l'ont drôlement aidé. Hein. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a trouvé tout ça? C'est fondamentalement parce qu'ils se sont mis à travailler ensemble. Et alors moi, je l'ai vu dans Essilor, si vous voulez, quand vous mettez ensemble les génies allemands, italiens et français, regardez des boîtes comme Airbus. Dès que vous mettez le génie allemand avec le génie français, alors je peux vous dire que c'est dur à mettre ensemble, hein, parce que
Oui,
les
mais
Allemands sont très...
Xavier Fontanet, est-ce que
Ben oui.
on est tous d'accord là-dessus? Mais
Et
comment
oui.
est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que l'Europe, au lieu de mettre en avant et d'organiser cette
Ah ben, c'est
puissance,
tout le boulot à faire. Je suis
oui,
d'accord avec
d'accord, mais
vous.
enfin, ça fait quand même un petit bout de temps
Je
que.
pense que ça commence à jouer. Le fait qu'Orban soit pris une claque est une très bonne nouvelle. Vous avez aussi le génie, oui, les Ukrainiens sont absolument géniaux. Alors c'est épouvantable ce qui leur arrive. Vous avez vu qu'ils sont en train de devenir les champions du monde des drones. Ils commencent à vendre des drones un peu partout dans le monde. Vous voyez, vous rendez compte le truc? Et ça, c'est du génie, c'est du vrai génie, c'est le génie du peuple. Et donc, non, mais je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de boulot. Mais je pense que le boulot de nos politiques, il y a non seulement un boulot au niveau de la France pour remettre les comptes sur pied, mais il y a aussi tout un boulot à faire au niveau de l'Europe. Hein. Et je pense qu'il se passe des trucs intéressants avec l'Italie, si vous voulez. Les Allemands aussi, et les Hollandais, il faut voir. Moi, étant très. Je vous assure qu'il se passe un truc. L'Europe est foutoir. Il y a eu énormément de bêtises. On ne va pas passer notre temps à les qualifier. Je pense qu'à cause à cause des guerres, des blocs, les choses vont commencer à se remettre en place. Mais ce n'est pas fait. Ça peut ne pas marcher, mais ça peut aussi marcher. Hein. Et vous savez, il y a des trucs complètement idiots. Je suis professeur d'économie X-Mine pour les élèves de l'X et des mines. Ils sont complètement géniaux, les jeunes. Hein. Nos jeunes polytechniciens, mineurs, centraliens, tout ça. On a une génération de jeunes absolument extraordinaire. Hein. Et puis quand vous mélangez ça, ils ont beaucoup voyagé à l'étranger. Il y a eu toutes les histoires, toutes les Erasmus. Ils sont très très proches. Ils veulent plus aller aux États-Unis pour faire les études supérieures. Hein. Ils vont en Italie, ils vont en Suisse, ils vont en Espagne. Donc évidemment, à court terme, c'est pas terrible. Mais je pense qu'il y a quand même une dynamique et que il faut que nos dirigeants européens disent que l'Europe est quand même rassemble 2000 ans d'histoire. On a quand même inventé avec les Grecs, puis la religion chrétienne, les grands philosophes. Kant et Voltaire, vous voyez, tous ces gens-là, Saint Thomas d'Aquin, on a quand même inventé tous les concepts de si vous voulez, de démocratie. Alors, évidemment, on a en face de nous des blocs. Un Chinois va dire, mais non, ça ne marche pas, la démocratie. Ben, très bien, ben, les Chinois, il faut qu'ils aient leur technique. Mais je pense que ça va être assez constructif de voir quel est le meilleur système à très long terme. Parce que les
Alors,
Chinois ont des
entièrement
difficultés.
d'accord,
Ils ont des
mais
difficultés avec les populations qui tombent, les jeunes ne veulent plus travailler, les filles font plus d'enfants. Ils sont géniaux sur le plan intellectuel. Moi, j'ai eu la chance de les accompagner 25 ans avec Essilor. On a monté une boîte géniale, Essilor, qui marche très très bien, Essilor Vert en Chine. Et donc, j'ai vu les Chinois monter. Ils sont très très forts. Mais on a des talents par rapport à eux. On a un esprit qui est différent, c'est-à-dire qu'on a un esprit qui est beaucoup plus cartésien. Eux, ils ont des idéogrammes. Donc, ils ne pensent pas comme nous, alors que nous, on a une grammaire, vous voyez. Et donc, il y a des tas de terrains. Regardez les boîtes françaises. Le français, je veux dire, le talent du français, c'est dès qu'on le fout dans un système bordélique, un métier bordélique et compliqué, le français est bon. Regardez les découvertes de pétrole. C'est Elf et Total qui ont le monopole. Et
alors
donc.
justement, Xavier Fontané, je voulais, parce que l'heure tourne, comme on dit, vous interroger sur les enjeux du monde, au-delà de la France, de l'Europe. Est-ce que vous ne pensez pas justement, vous l'avez un tout petit peu évoqué à la fois avec la Chine et avec Elf et Total, est-ce que les deux enjeux du monde à venir ne sont pas la crise démographique, la déplétion démographique présente et à venir, et aussi le fait d'avoir suffisamment d'énergie, une indépendance énergétique pour nos armées, pour nos industries
Bien
et pour
sûr.
l'ensemble de nos
Alors,
activités?
il est évident que le gros sujet est le sujet énergétique, puisque les Américains ont le pétrole. Les Russes, en gros, ont abandonné tout ce qui est technologie. Par contre, ils mettent la main sur tout ce qui est nourriture et tout ce qui est matière première. Bon, mais si vous voulez, il va se passer des trucs, à mon avis, imprévus. Il est évident que l'Europe a quand même des avances dans tout ce qui est recyclage avec des boîtes comme Veolia et Suez, où on est quand même leader mondial de tout ce qui est recyclage. Je pense que la fusion nucléaire, ou la fusion va commencer à. Vous avez vu que les Allemands viennent de trouver un truc très très important, Max Planck Institute. Alors, ça, c'est nature à faire changer les Allemands sur le nucléaire. Les Allemands sont en train de mettre du fric dans le nucléaire, hein, dans la fusion. Donc, il va se passer, à mon avis, des tas de trucs. Il y avait tout le recyclage. Il est évident que si les populations commencent à se stabiliser, le recyclage va devenir de plus en plus efficace. Et puis, il faut s'allier avec des pays comme le Canada et l'Australie, alors, pour pouvoir faire un bloc avec l'Europe et tous les pays soucieux de liberté. Alors, je vais vous amuser. J'ai fait une conférence la semaine dernière, il y a 15 jours, en Savoie, la conférence sur mes livres de stratégie. Alors, les types me disent, mais Fontanelle, vous feriez quoi? Alors, je vais vous dire, on va rêver. Alors, si j'étais à la tête de l'Europe, alors, excusez-moi, je ne me prends pas, mais c'est pour faire réfléchir et pour faire
Non, mais
rire.
allez-y, allez-y, parce qu'on est là
Je
sur les
dirais,
solutions, donc
j'irai voir les
je vous en prie.
Canadiens. J'irai voir les Canadiens et je dirai, écoutez, je vous propose, Canada, de rejoindre l'Europe. Hein? Au fond, il n'y a pas très longtemps, on était ensemble. Hein? Et puis, l'avantage qu'on aurait, c'est que si vous regardez l'Arctique, entre le Canada, le Groenland, la Norvège et la Finlande, on a la moitié la circonférence. Hein? Donc, je vous propose de devenir européen. D'accord? Bon. Alors après, on va voir Trump. On va
Vive
dire
le
à Trump.
Québec libre!
Oui, mais alors, on va le mettre dans l'Europe. Hein? D'accord. Après, on va voir Trump. On dit, Trump, attends, attends, attends. Tu veux pouvoir aller au Groenland, là? Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu veux mettre des missiles antimissiles. Mais c'est des missiles antimissiles de qui? Ah, de la Russie. Bon, écoute, on va te faire un bon prix. Mais tu arrêtes de traiter Poutine comme tu traitais, parce que tu ne peux pas être copain avec Poutine et en même temps t'amuser et puis vouloir mettre des missiles contre lui. Alors, le coup d'après, j'irai voir Xi Jinping et j'ai beaucoup étudié Confucius. On continue à rire, hein, mais ce serait des politiques européennes. Je prends des pages de Confucius en disant à Xi Jinping, est-ce que tu es sûr quand tu achètes le pétrole russe, tu as du sang d'enfant ukrainien sur les mains? Est-ce que tu es sûr que Confucius serait content avec ça? Alors vous allez voir. Et puis tu sais, Xi Jinping, moi je serais toi, je piquerais la Mandchourie. Parce que je te rappelle que Staline a piqué la Mandchourie à Mao. Hein. Bah, tu la reprends. Hein. Qu'est-ce qu'il fait hein? Et puis après, on va voir la Californie en disant, mais écoutez, Trump explique que le monde pompe les US, mais attendez, la Californie est pompée par les US, devenez un État indépendant, vous voyez? Qu'une fois qu'on a fait ça, on va voir la Nouvelle-Angleterre, puis on dit, vous avez vu la Californie, ben, revenez l'Europe, vous voyez, puis on rebaptise l'océan Atlantique. Bon, alors je fais des trucs idiots, mais je
Ben,
pense qu'il faut
surtout
que
que vous
l'Europe.
attisez les irrédentismes. Or, c'est
Non, non,
justement ce
non,
que l'on...
non, 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 je renforce. Pour que l'Europe s'en tire, justement avec votre argument de manque de matières premières, il faut qu'on s'allie des pays comme le Canada et l'Australie, qui sont bourrés de matières premières. Il faut absolument faire un groupe avec eux. Et on leur dit, nous sommes on a en commun des démocraties, nous sommes en commun d'avoir le respect de la personne humaine, la même conception, on se met tous ensemble. Et à ce moment-là, l'Europe récupère et l'Australie sera ravie d'avoir des soutiens face à la Chine. Vous comprenez? Il faut monter d'un cran. Alors l'Europe, je suis d'accord avec vous, n'est pas aujourd'hui en l'état. Il y a que des discussions fictives qui permettent de le faire. Mais je pense que après les horizons de temps, si vous voulez, on a de l'horizon de temps devant nous, vous voyez. Mais c'est le genre de raisonnement qu'il faut avoir. Ça donne des perspectives. Vous voyez? D'ailleurs, vous êtes mis à rire, c'est bon signe. C'est que vous avez trouvé le truc astucieux.
C'est en effet astucieux. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal d'Hugues Sérapion. Je reçois Xavier Fontanet pour son dernier ouvrage, Le grand-père et le président, aux éditions conjointes Valeurs ajoutées et contribuables associés. Et nous arrivons un petit peu au terme de cet entretien. Il nous reste quelques minutes. Je voulais un petit peu vous interroger pour revenir en France, parce que c'est quand même le sujet principal de votre ouvrage, sur la question du paritarisme, parce que vous en parlez pas mal. Et en effet, je crois qu'on est un petit peu dans une sorte de nœud gordien. Et je n'ai pas bien compris si vous souhaitiez maintenir le paritarisme, notamment sur le financement de la protection sociale, en laissant aux partenaires sociaux, puisque c'est ça la définition du paritarisme, pour qu'ils gèrent les dépenses et les recettes de la protection sociale, donc représentants des salariés, représentants des entreprises, ou au contraire, comme j'ai cru le comprendre dans votre ouvrage, que vous considériez qu'il y avait une sorte de mauvaise gestion d'une part et de ménage à trois avec l'État, et que donc il fallait en quelque sorte arrêter avec le paritarisme parce que ça ne menait nulle part. D'autant que, vous l'avez rappelé, les syndicats aujourd'hui ne sont pas des syndicats gestionnaires, mais des syndicats extrêmement politisés.
Merci beaucoup de me poser la question parce que ça va me permettre de préciser. Non, je pense qu'il faut un système à l'allemande. Je pense que le système suisse ou le système néo-Z de vendre la sécurité sociale à des assurances privées et faire racheter les hôpitaux par le personnel, qui a très bien fonctionné, ça ne marchera pas. Je dis qu'en France, les syndicats peuvent très bien faire. L'AGIRC est très bien géré. L'AGIRC, ils ont réussi à avoir des équilibres, ils ont des excédents. Donc, il y a tout à fait chez les syndicalistes, il y a des gens formidables. Moi, j'ai gardé le meilleur souvenir de tous les syndicalistes des Silor. C'était extraordinaire. Les débats de CCE, c'était fabuleux parce qu'ils étaient complètement, ils étaient tout à fait mariés à Silor et ils étaient d'ailleurs actionnaires salariés. Donc, je dirais un petit mot là-dessus. Hein? Ça change beaucoup de choses.
Ça
Et je
joue un
pense
petit peu,
donc
oui.
qu'il faut absolument, la réponse est très claire, moi je suis absolument pour un système à l'allemande où c'est patronat syndicat qui gère les caisses. Vous voyez? Alors, absolument, donc merci de mettre ça. Et alors je pense qu'il y a un point très important, c'est l'actionnariat salarié. Vous savez, De Gaulle, qui avait vraiment beaucoup d'intuition, avait lancé la participation, d'accord? L'intéressement, la participation. Il est évident que le troisième levier, c'est l'actionnariat salarié. Vous voyez? Et alors, l'actionnariat salarié, c'est un truc qui change absolument tout. Et moi, je vais dire que l'une des raisons du succès des Silor que vous avez renseigné au départ, c'est que nous avons beaucoup, bien, beaucoup, tout le monde était actionnaire salarié. Et même les syndicats avaient de l'argent, hein. Ils avaient des actions. Hein. Et l'action qu'avait le délégué CGT lui permettait d'interpeller le PDG en AG en lui disant, t'as fait quoi de mon fric? Vous voyez? Et ça, c'est très important. Alors, le truc qui a joué dans le succès des Silor, c'est que pour beaucoup de salariés, les actions Silor étaient plus importantes que les maisons qu'ils avaient ou l'appartement. C'était devenu des... Ils sont passés de salarié actionnaire à actionnaire salarié. Et ça m'a complètement frappé à un niveau considérable. C'est qu'à partir du moment où il y avait un très grand nombre et la majorité des cadres qui étaient devenus des actionnaires salariés, gérer la boutique Essilor, je veux dire, c'était un régal absolu parce qu'ils raisonnaient vraiment en actionnaire, vous voyez? Et comme ils étaient salariés, ils connaissaient très bien le détail, et pour moi, c'est la solution idéale. Et je pense que le truc à faire, c'est un gigantesque, un grand coup de pouce à l'actionnariat salarié. Et moi, je dis qu'il faudrait aussi mettre des variables à la fonction publique, comme le fait Singapour, de façon à que la fonction publique ait des bonus qui dépendent de l'amélioration des comptes de l'État. Hein, et que tous ces bonus, on les mette dans des fonds. Comme ce qu'ont fait les Singapouriens, le fonds de GIC, et la préfonds marche très très bien. Hein. Et donc, moi, je pense qu'il y aurait, en plus de toutes les réformes que j'ai évoquées, qui sont évidemment hardes, il faut dire, en fonction de ces efforts, et on sait qu'il y a des efforts, il y aura une gigantesque récompense. Et l'accès à la capitalisation, le système évident, c'est l'actionnariat salarié, aussi bien au niveau de l'entreprise, mais il faut aussi commencer à donner du variable aux fonctionnaires, en commençant par les très hauts, comme l'a fait Singapour avec un énorme succès, voyez. Et donc, il faut dire, si la Maison France, vous la mettez debout, eh ben, vous bénéficierez financièrement de ça, voyez. Hein, il faut des idées comme ça. Et je pense que, vous voyez, pour les prochaines interviews, amusez-vous à interviewer des gens qui, comme vous le disiez, disent faut tout nationaliser. Faites-les venir. Et puis, s'ils refusent, vous direz, ils ne veulent pas venir. Mais je pense que ce serait très
Je peux
intéressant.
déjà le dire depuis 30 ans, cher Xavier
Oui, mais vous
Fontanet.
continuez, vous y allez. Non, non, mais continuez, vous découragez pas. Et je vous assure, ce sera. Et puis, vous direz, et vous arriverez sûr en persuader un. Hein. Puis après, ben, vous direz merci, il est venu, c'est formidable. Vous voyez? Voilà,
S'agissant
ce serait.
de Singapour, pour la petite anecdote, je vous rappelle et je rappelle à nos auditeurs que j'avais interrogé pendant 1 heure et demie notre ancien ambassadeur de France à Singapour, qui a fait paraître un ouvrage qui est une biographie de Lee Kuan Yew,
Ali Kuan Yew, bien sûr.
qui est l'inventeur de
Oui.
Singapour dans tous les sens du terme, et qui est probablement un des personnages les plus mythiques du
On est
XXe
entièrement
siècle.
d'accord. Alors moi,
C'est
il savait que je le
exceptionnel.
connaissais. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il était hypermétrope et astigmate. Et les opticiens singapouriens qui travaillent qu'avec des myopes ne savaient pas le corriger. Donc la maison Essilor a évidemment corrigé. Et j'étais monsieur lunettes. Quand je venais à Singapour, j'allais porter les lunettes, vous voyez? Et donc j'ai eu la chance insigne de pouvoir assister à des dîners avec très peu de monde. Et c'est une des personnes qui m'a le plus marqué dans ma vie, pour tout vous dire. Et donc, je pense qu'il faudrait faire des émissions, inviter les expats de Singapour, les expats français de Singapour, et interviewer-les sur la méthode singapourienne. Vous allez voir, vous faites des émissions avec ça. Si vous voulez, moi, je vous donne des noms. Hein. Si vous voulez,
Écoutez, je vous remercie, mais j'ai interviewé donc
je vous
notre
donne
ambassadeur,
des
monsieur de
grands expats.
Montferrand.
Attendez, je vous donne des grands expats français. Hein, qui n'ont pas voulu devenir français. Moi, vous savez qu'on m'avait proposé de devenir singapourien quand j'ai pris ma retraite. On m'a proposé de devenir administrateur de GIC. Vous voyez? Hein? Et je n'ai pas voulu pour avoir la joie d'avoir une interview avec vous. Hein? Parce que, bon. Mais si vous voulez avoir des gars de Singapour qui vous expliquent comment fonctionne le système, je donne les noms. Je vous promets des interviews extraordinaires. Et ça fera réfléchir les Français. Ça fera réfléchir les Français. Faites venir aussi, si vous voulez faire venir Arts, alors Arts, le problème, c'est qu'il ne parle pas français. Mais interviewer Jean Chrétien. Vous le faites en vidéo, hein? Vous montez une vidéo au Canada et vous faites 1 heure et demie avec Jean Chrétien. Je pense qu'il faut faire ça. Et si vous avez des capacités de traduction, essayez de faire ça avec Arts. Schroeder, vous aurez du mal, mais Arts, je me fais fort de vous l'amener.
Écoutez, ce serait un immense honneur, Xavier Fontanet. Et comme il ne nous reste que quelques minutes, je voudrais vous laisser justement la parole pour le mot de la fin. Vous avez 2, 3 minutes pour essayer de nous dire quelles seraient les premières réformes à mettre en œuvre pour justement pouvoir éviter l'ornière qui guette.
Écoutez, moi, je vais vous dire, je ne pense pas comme ça. Je pense que le vrai sujet, si vous voulez, c'est qu'il y a un changement de software. Vous voyez,
De
moi, je vois des
logiciel, vous
sujets
voulez dire?
de software, c'est-à-dire qu'on est passé d'un pays à la suite des trois grandes décisions, c'est le droit à l'État-providence, c'est l'État qui va assurer l'égalité, qui va gérer mieux que toutes ces entreprises, etc. Non, je pense qu'il faut que les Français comprennent que c'est les entreprises qui créent les emplois et qu'elles ont besoin d'un terreau favorable pour pouvoir se déployer. Une entreprise, ce n'est pas une machine à fric, comme on l'a dit. Une entreprise n'existe que si elle rend service. Hein? Si elle ne rend pas service, elle n'existe pas. Et les gens, ils achètent librement. Bon, tout ça se passe en concurrence. Donc, il y a une grande liberté du consommateur. Si une entreprise garde ses clients comme l'a fait Essilor, on atteint le bien commun. Parce que chacun a son intérêt. Hein? Et c'est la concurrence et la fidélité qui permettent de contribuer au bien commun. Donc, moi, je pense que le vrai truc à faire, c'est un travail de fond pour remonter l'image de l'entreprise, réexpliquer ce qu'elle fait. Et il faut que les Français passent d'un système où c'est l'État qui fera tout, l'État nounou, système qui nous a ruinés, à un système dans lequel chacun s'assume, dans le cadre de l'entreprise, et comprendre que l'entreprise défend l'intérêt général, en fait. C'est la concurrence qui fait que. Et la liberté de l'acheteur qui fait qu'on est dans le bien commun. L'entreprise, c'est le bien commun. Ce n'est pas à peine de faire des missions. Naturellement, une entreprise dans le bien commun. Et c'est ce shift entre l'État-providence qui fait tout, on s'assume, c'est l'entreprise qui est vraiment le moteur. On a des belles boîtes, donc les Français, on est très bons. On n'a aucun complexe par rapport aux autres. Et ben moi, je crois que c'est. Et je commencerai par la pédagogie. Vous savez, Napoléon, je vais raconter une histoire et je terminerai là-dessus. Ah bon, bah écoutez,
Oui, on a
la
malheureusement,
distrait.
nous
C'est
avons
dommage,
atteint.
c'était la meilleure. C'était la meilleure. C'est bien dommage.
Si vous avez 30 secondes, en 30 secondes, c'est.
Voilà, alors en 30 secondes, Napoléon, vous savez, Napoléon, la veille des batailles, il allait sous les tentes expliquer la stratégie aux soldats. Hein? Et les soldats disaient, Empereur, tout n'est prêt pour les grandes personnes, demain on sera au combat. Et Clausewitz, et je termine, à la fin de sa vie, a reconnu que Napoléon et les Français étaient meilleurs parce que les Français s'appropriaient les batailles, alors que les Prussiens, plus nombreux et mieux équipés, ne faisaient qu'obéir au chef. Voilà. Et donc le vrai sujet, c'est que les médias permettent de faire aux Français ce que Napoléon faisait aux Grognards.
Xavier Fontanet, un immense merci. Je rappelle donc à nos auditeurs que vous êtes l'auteur d'un dernier ouvrage, Le grand-père et le président, donc de Xavier Fontanet, aux éditions Valeurs ajoutées et Contribuables associés. Je rappelle que vous avez eu un parcours particulièrement brillant de président directeur général d'une de nos plus grandes entreprises françaises, membre du CAC 40. Essilor, et que vous avez bien voulu nous partager vos réflexions sur les réformes qu'il faudrait mettre en œuvre en France. Et bien évidemment, avec toute l'équipe de Radio Courtoisie, on serait très heureux de pouvoir interroger Jean Chrétien, donc l'ancien Premier ministre du Canada, ou le docteur Arts, qui a participé au redressement de l'Allemagne, qui était, ne l'oublions pas, l'homme malade de l'Europe. Et
Absolument.
Vraiment, si vous pouvez nous aider dans ces interviews, ben,
Avec
on serait très,
plaisir.
très heureux. Et je me dois également donc de remercier la technique pour avoir organisé cette émission. Et bien évidemment, je conclurai pour les auditeurs de Radio Courtoisie en les incitant à lire votre livre et à essayer de comprendre ce qui fait la richesse des nations. Amis auditeurs, à dans 4 semaines.
Vous
venez d'entendre le libre journal d'Hugues Sérapion, émission préenregistrée le 20 avril 2026, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 25 avril de midi à 13h30 et réalisée par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.